Les Confessions, livre 2, 1728-1731. Autant le moment où l'effroi me suggéra le projet de fuir m'avait paru triste, autant celui où je l'exécutai me parut charmant. Encore enfant, quitter mon pays, mes parents, mes appuis, mes ressources, laisser un apprentissage à moitié fait sans savoir mon métier assez pour en vivre, me livrer aux horreurs de la misère sans avoir aucun moyen d'en sortir, dans l'âge de la faiblesse et de l'innocence, m'exposer à toutes les tentations du vice et du désespoir, chercher au loin les maux, les erreurs, les pièges, l'esclavage et la mort, sous un joug bien plus inflexible que celui que je n'avais pu souffrir, c'était là ce que j'allais faire. C'était la perspective que j'aurais dû envisager. Que celle que je me peignais était différente. L'indépendance que je croyais avoir acquise était le seul sentiment qui m'affectait. Libre et maître de moi-même, je croyais pouvoir tout faire, atteindre à tout. Je n'avais qu'à m'élancer pour m'élever et voler dans les airs. J'entrais avec sécurité dans le vaste espace du monde. Mon mérite allait le remplir. À chaque pas, j'allais trouver des festins, des trésors, des aventures, des amis prêts à me servir, des maîtresses empressées à me plaire. En me montrant, j'allais occuper de moi l'univers. Non pas pourtant l'univers tout entier, je l'en dispensais en quelque sorte, il ne m'en fallait pas tant. Une société charmante me suffisait, sans m'embarrasser du reste. Ma modération m'inscrivait dans une sphère étroite, mais délicieusement choisie, où j'étais assurée de régner. Un seul château bornait mon ambition. Favori du seigneur et de la dame, amant de la demoiselle, ami du frère et protecteur des voisins, j'étais content, il ne m'en fallait pas davantage. En attendant ce modeste avenir, j'errai quelques jours autour de la ville, logeant chez des paysans de ma connaissance, qui tous me reçurent avec plus de bonté que n'auraient fait des urbains. Ils m'accueillaient, me logeaient, me nourrissaient trop bonnement pour en avoir le mérite. Cela ne pouvait pas s'appeler faire l'aumône, ils n'y mettaient pas assez l'air de la supériorité. À force de voyager et de parcourir le monde, j'allais jusqu'à Confignon, terre de Savoie, à 2 lieues de Genève. Le curé s'appelait Monsieur de Pontvert. Ce nom, fameux dans l'histoire de la République, me frappa beaucoup. J'étais curieux de voir comment étaient faits les descendants des gentilshommes de la Cuillère. J'allai voir Monsieur de Pontvert, il me reçut bien, me parla de l'hérésie de Genève, de l'autorité de la Sainte Mère Église, et me donna à dîner. Je trouvais peu de choses à répondre à des arguments qui finissaient ainsi, et je jugeais que des curés chez qui l'on dînait si bien valaient tout au moins nos ministres. J'étais certainement plus savant que Monsieur de Pontvert, tout gentilhomme qu'il était, mais j'étais trop bon convive pour être si bon théologien, et son vin de Fangis, qui me parut excellent, augmentait si victorieusement pour lui que j'aurais rougi de fermer la bouche à un si bon hôte. Je cédai donc, ou du moins je ne résistais pas en face. À voir les ménagements dont j'usais, on m'aurait cru faux. On se fût trompé, je n'étais qu'honnête, cela est certain. La flatterie, ou plutôt la condescendance, n'est pas toujours un vice, elle est plus souvent une vertu, surtout dans les jeunes gens. La bonté avec laquelle un homme nous traite nous attache à lui. Ce n'est pas pour l'abuser qu'on lui cède, c'est pour ne pas l'attrister, pour ne pas lui rendre le mal pour le bien. Quel intérêt avait Monsieur de Pontvert à m'accueillir, à me bien traiter, à vouloir me convaincre? nul autre que le mien propre. » Mon jeune cœur se disait cela. J'étais touché de reconnaissance et de respect pour le bon prêtre. Je sentais ma supériorité, je ne voulais pas l'en accabler pour prix de son hospitalité. Il n'y avait point de motif hypocrite à cette conduite. Je ne songeais point à changer de religion, et, bien loin de me familiariser si vite avec cette idée, je ne l'envisageais qu'avec une horreur qui devait l'écarter de moi pour longtemps. Je voulais seulement ne point fâcher ceux qui me caressaient dans cette vue. Je voulais cultiver leur bienveillance et leur laisser l'espoir du succès en paraissant moins armé que je ne l'étais en effet. Ma faute en cela ressemblait à la coquetterie des honnêtes femmes qui, quelquefois, pour parvenir à leur fin, savent sans rien permettre ni rien promettre faire espérer plus qu'elles ne veulent tenir. La raison, la pitié, l'amour de l'ordre exigeaient assurément que, loin de se prêter à ma folie, on m'éloignât de ma perte où je courais, en me renvoyant dans ma famille. C'est là ce qu'aurait fait ou tâché de faire tout homme vraiment vertueux. Mais quoique M. de Bonvers fût un bon homme, ce n'était assurément pas un homme vertueux. Au contraire, c'était un dévot qui ne connaissait d'autre vertu que d'adorer les images et de dire le rosaire. Une espèce de missionnaire qui n'imaginait rien de mieux, pour le bien de la foi, que de faire des libelles contre les ministres de Genève. Loin de penser à me renvoyer chez moi, il profita du désir que j'avais de m'en éloigner pour me mettre hors d'état d'y retourner, quand même il m'en prendrait envie. Il y avait tout à parier qu'il m'envoyait périr de misère ou devenir un vaurien. Ce n'était point là ce qu'il voyait. Il voyait une âme ôtée à l'hérésie et rendue à l'Église. Honnête homme ou vaurien, qu'importait cela, pourvu que j'allasse à la messe. Il ne faut pas croire, au reste, que cette façon de penser soit particulière aux catholiques. Elle est celle de toute religion dogmatique où l'on fait l'essentiel, non de faire, mais de croire. « Dieu vous appelle, » me dit M. de Pontvert. « Allez à Annecy. Vous y trouverez une bonne dame bien charitable, que les bienfaits du roi mettent en état de retirer d'autres âmes de l'erreur dont elle est sortie elle-même. » Il s'agissait de Madame de Varens, nouvelle convertie, que les prêtres forçaient en effet de partager, avec la canaille qui venait vendre sa foi, une pension de 2000 francs que lui donnait le roi de Sardaigne. Je me sentais fort humilié d'avoir besoin d'une bonne dame bien charitable. J'aimais fort qu'on me donnât mon nécessaire, mais non pas qu'on me fît la charité. Et une dévote n'était pas pour moi fort attirante. Toutefois, pressé par M. de Pontvert, par la faim qui me talonnait, bien aise aussi de faire un voyage et d'avoir un but, je prends mon parti, quoiqu'avec peine, et je pars pour Annecy. J'y pouvais être aisément en un jour, mais je ne me pressais pas, j'en mis 3. Je ne voyais pas un château à droite ou à gauche sans aller chercher l'aventure que j'étais sûre qui m'y attendait. Je n'osais entrer dans le château ni heurter, car j'étais fort timide, mais je chantais sous la fenêtre qui avait le plus d'apparence, fort surpris, après m'être longtemps époumonné, de ne voir paraître ni dame ni demoiselle qu'attira la beauté de ma voix ou le sel de mes chansons, vu que j'en savais d'admirable que mes camarades m'avaient apprise et que je chantais admirablement. J'arrive enfin, je vois Madame de Varens. Cette époque de ma vie a décidé de mon caractère. Je ne puis me résoudre à la passer légèrement. J'étais au milieu de ma 16e année. Sans être ce qu'on appelle un beau garçon, j'étais bien pris dans ma petite taille. J'avais un joli pied, une jambe fine, l'air dégagé, la physionomie animée, la bouche mignonne, les sourcils et les cheveux noirs, les yeux petits et même enfoncés, mais qui lançaient avec force le feu dont mon sang était embrasé. Malheureusement, je ne savais rien de tout cela. et de ma vie il ne m'est arrivé de songer à ma figure que lorsqu'il n'était plus temps d'en tirer parti. Ainsi, j'avais, avec la timidité de mon âge, celle d'un naturel très aimant, toujours troublé par la crainte de déplaire. D'ailleurs, quoique j'eusse l'esprit assez orné, n'ayant jamais vu le monde, je manquais totalement de manières. Et mes connaissances, loin d'y suppléer, ne servaient qu'à m'intimider davantage en me faisant sentir combien j'en manquais. Craignant donc que mon abord ne prévînt pas en ma faveur, je pris autrement mes avantages, et je fis une belle lettre en style d'orateur où, cousant des phrases de livre avec des locutions d'apprenti, je déployai toute mon éloquence pour capter la bienveillance de madame de Varens. J'enfermai la lettre de monsieur de Pontvert dans la mienne, et je partis pour cette terrible audience. Je ne trouvai point madame de Varens. On me dit qu'elle venait de sortir pour aller à l'église. C'était le jour des rameaux de l'année 1728. Je cours pour la suivre, je la vois, je l'atteins, je lui parle. Je dois me souvenir du lieu, je l'ai souvent depuis mouillé de mes larmes et couvert de mes baisers. Que ne puis-je entourer d'un balustre d'or cette heureuse place? Que n'y puis-je attirer les hommages de toute la terre? Quiconque aime à honorer les monuments du salut des hommes n'en devrait approcher qu'à genoux. C'était un passage derrière sa maison, entre un ruisseau à main droite qui la séparait du jardin et le mur de la cour à gauche, conduisant par une fausse porte à l'église des Cordeliers. Prête à entrer dans cette porte, madame de Varens se retourne à ma voix. Que devins-je à cette vue? Je m'étais figuré une vieille dévote bien rechignée. La bonne dame de monsieur de Pontvert ne pouvait être autre chose, à mon avis. Je vois un visage pétri de grâce, de beaux yeux bleus pleins de douceur, un teint éblouissant, le contour d'une gorge enchanteresse. Rien n'échappa au rapide coup d'œil du jeune prosélyte, car je devins à l'instant le sien. Sûr qu'une religion prêchée par de tels missionnaires ne pouvait manquer de mener en paradis. Elle prend en souriant la lettre, que je lui présente d'une main tremblante, l'ouvre, jette un coup d'œil sur celle de monsieur de Pontvert, revient à la mienne, qu'elle lit tout entière, et qu'elle eût relue encore si son laquais ne l'eût averti qu'il était temps d'entrer. « Eh, mon enfant !» me dit-elle d'un ton qui me fit tressaillir. « Vous voilà courant le pays bien jeune. C'est dommage en vérité. » Puis, sans attendre ma réponse, elle ajouta. « Allez chez moi m'attendre. Dites qu'on vous donne à déjeuner. Après la messe, j'irai causer avec vous. » Louise Éléonore de Varens était une demoiselle de la tour de Pile, noble et ancienne famille de Vevey, ville du pays de Vaud. Elle avait épousé fort jeune monsieur de Varens, de la maison de Loye, fils aîné de monsieur de Villardin, de Lausanne. Ce mariage, qui ne produisit point d'enfants, n'ayant pas trop réussi, madame de Varens, poussée par quelques chagrins domestiques, prit le temps que le roi Victor Amédée était à Évian pour passer le lac et venir se jeter aux pieds de ce prince, abandonnant ainsi son mari, sa famille et son pays, par une étourderie assez semblable à la mienne, et qu'elle a eu tout le temps de pleurer aussi. Le roi, qui aimait à faire le zélé catholique, la prit sous sa protection, lui donna une pension de 1500 livres de Piémont, ce qui était beaucoup pour un prince aussi peu prodigue. Et, voyant que sur cet accueil on l'en croyait amoureux, il l'envoya à Annecy, escorté par un détachement de ses gardes, où, sous la direction de Michel Gabriel de Bernex, évêque titulaire de Genève, elle fit abjuration au couvent de la Visitation. Il y avait 6 ans qu'elle y était quand j'y vins, et elle en avait alors 28, étant née avec le siècle. Elle avait de ces beautés qui se conservent, parce qu'elles sont plus dans la physionomie que dans les traits. Aussi, la sienne était-elle encore dans tout son premier éclat. Elle avait un air caressant et tendre, un regard très doux, un sourire angélique, une bouche à la mesure de la mienne, des cheveux cendrés d'une beauté peu commune, et auquel elle donnait un tour négligé qui la rendait très piquante. Elle était petite de stature, courte même, et ramassée un peu dans sa taille, quoique sans difformité. Mais il était impossible de voir une plus belle tête, un plus beau sein, de plus belles mains et de plus beaux bras. Son éducation avait été fort mêlée. Elle avait ainsi, que moi, perdu sa mère dès sa naissance, et, recevant indifféremment des instructions, comme elle s'était présentée, elle avait appris un peu de sa gouvernante, un peu de son père, un peu de ses maîtres, et beaucoup de ses amants. Surtout d'un monsieur de Tavelle, qui, ayant du goût et des connaissances, en orna la personne qu'il aimait. Mais tant de genres différents se nuisirent les uns aux autres, et le peu d'ordre qu'elle y mit empêcha que ses diverses études n'étendissent la justesse naturelle de son esprit. Ainsi, quoiqu'elle eût quelques principes de philosophie et de physique, elle ne laissa pas de prendre le goût que son père avait pour la médecine empirique et pour l'alchimie. Elle faisait des élixirs, des teintures, des baumes, des magistères. Elle prétendait avoir des secrets. Les charlatans, profitant de sa faiblesse, s'emparèrent d'elle, l'obsédèrent, la ruinèrent et consumèrent, au milieu des fourneaux et des drogues, son esprit, ses talents et ses charmes, dont elle eût pu faire les délices des meilleures sociétés. Mais si de vils fripons abusèrent de son éducation mal dirigée pour obscurcir les lumières de sa raison, son excellent cœur fut à l'épreuve et demeura toujours le même. Son caractère aimant et doux, sa sensibilité pour les malheureux, son inépuisable bonté, son humeur gaie, ouverte et franche, ne s'altérèrent jamais. Et même aux approches de la vieillesse, dans le sein de l'indigence, des maux, des calamités diverses, la sérénité de sa belle âme lui conserva jusqu'à la fin de sa vie toute la gaieté de ses plus beaux jours. Ses erreurs lui vinrent d'un fond d'activité inépuisable qui voulait sans cesse de l'occupation. Ce n'étaient pas des intrigues de femme qu'il lui fallait, c'était des entreprises à faire et à diriger. Elle était née pour les grandes affaires. À sa place, Madame de Longueville n'eût été qu'une tracassière. À la place de Madame de Longueville, elle eût gouverné l'État. Ses talents ont été déplacés, et ce qui eût fait sa gloire dans une situation plus élevée a fait sa perte dans celle où elle a vécu. Dans les choses qui étaient à sa portée, elle étendait toujours son plan dans sa tête et voyait toujours son objet en grand. Cela faisait qu'employant des moyens proportionnés à ses vues plus qu'à ses forces, elle échouait par la faute des autres. Et son projet venant à manquer, elle était ruinée ou d'autres n'auraient presque rien perdu. Ce goût des affaires, qui lui fit en deux mots, lui fit du moins un grand bien dans son asile monastique, en l'empêchant de s'y fixer pour le reste de ses jours comme elle en était tentée. La vie uniforme et simple des religieuses, leur petit caillotage de parloir, tout cela ne pouvait flatter un esprit toujours en mouvement, qui, formant chaque jour de nouveaux systèmes, avait besoin de liberté pour s'y livrer. Le bon évêque de Bernex, avec moins d'esprit que François de Sales, lui ressemblait sur bien des points, et Madame de Varens, qu'il appelait sa fille, et qui ressemblait à Madame de Chantal sur beaucoup d'autres, eût pu lui ressembler encore dans sa retraite si son goût ne l'eût détourné de l'oisiveté d'un couvent. Ce ne fut point manque de zèle si cette aimable femme ne se livra pas aux menues pratiques de dévotion qui semblaient convenir à une nouvelle convertie vivant sous la direction d'un prélat. Quel qu'eût été le motif de son changement de religion, elle fut sincère dans celle qu'elle avait embrassée. Elle a pu se repentir d'avoir commis la faute, mais non pas désirer d'en revenir. Elle n'est pas seulement morte bonne catholique, elle a vécu telle de bonne foi, et j'ose affirmer, moi qui pense avoir lu dans le fond de son âme, que c'était uniquement par aversion pour les simagrées qu'elle ne faisait point en public la dévote. Elle avait une piété trop solide pour affecter de la dévotion. Mais ce n'est pas ici le lieu de m'étendre sur ces principes, j'aurai d'autres occasions d'en parler. Que ceux qui nient la sympathie des âmes expliquent, s'ils peuvent, comment, de la première entrevue, du premier mot, du premier regard, Madame de Varens m'inspira non seulement le plus vif attachement, mais une confiance parfaite et qui ne s'est jamais démentie. Supposons que ce que j'ai senti pour elle fut véritablement de l'amour, ce qui paraîtra tout au moins douteux à qui suivra l'histoire de nos liaisons. Comment cette passion fut-elle accompagnée, dès sa naissance, des sentiments qu'elle inspire le moins? La paix du cœur, le calme, la sérénité, la sécurité, l'assurance. Comment, en approchant pour la première fois d'une femme aimable, polie, éblouissante, d'une dame d'un état supérieur au mien, dont je n'avais jamais abordé l'appareil, de celle dont dépendait mon sort, en quelque sorte, par l'intérêt plus ou moins grand qu'elle y prendrait. Comment, dis-je, avec tout cela, me trouvais-je, à l'instant, aussi libre, aussi à mon aise, que si j'eusse été parfaitement sûr de lui plaire? Comment n'eus-je pas un moment d'embarras, de timidité, de gêne? Naturellement honteux, décontenancé, n'ayant jamais vu le monde, comment pris-je avec elle, du premier jour, du premier instant, les manières faciles, le langage tendre, le ton familier que j'avais 10 ans après, lorsque la plus grande intimité l'eut rendue naturelle? A-t-on de l'amour? Je ne dis pas sans désir, j'en avais, mais sans inquiétude, sans jalousie. Ne veut-on pas, au moins, apprendre de l'objet qu'on aime si l'on est aimé? C'est une question qu'il ne m'est pas plus venu dans l'esprit de lui faire une fois en ma vie que de me demander à moi-même si je m'aimais. Et jamais elle n'a été plus curieuse avec moi. Il y eut certainement quelque chose de singulier dans mes sentiments pour cette charmante femme. Et l'on y trouvera, dans la suite, des bizarreries auxquelles on ne s'attend pas. Il fut question de ce que je deviendrais, et pour en causer plus à loisir, elle me retint à dîner. Ce fut le premier repas de ma vie où j'eusse manqué d'appétit. Et sa femme de chambre, qui nous servait, dit aussi que j'étais le premier voyageur de mon âge et de mon étoffe qu'elle en eût vu manquer. Cette remarque, qui ne me nuisit pas dans l'esprit de ma maîtresse, tombait un peu à plomb sur un gros manant qui dînait avec nous, et qui dévora, lui, tout seul, un repas honnête pour 6 personnes. Pour moi, j'étais dans un ravissement qui ne me permettait pas de manger. Mon cœur se nourrissait d'un sentiment tout nouveau, dont il occupait tout mon être. Il ne me laissait des esprits pour nulle autre fonction. Madame de Varens voulut savoir les détails de ma petite histoire. Je retrouvai, pour la lui conter, tout le feu que j'avais perdu chez mon maître. Plus j'intéressais cette excellente âme en ma faveur, plus elle plaignait le sort auquel j'allais m'exposer. Sa tendre compassion se marquait dans son air, dans son regard, dans ses gestes. Elle n'osait m'exhorter à retourner à Genève. Dans sa position, c'eût été un crime de lèse catholicité, et elle n'ignorait pas combien elle était surveillée et combien ses discours étaient pesés. Mais elle me parlait d'un ton si touchant de l'affliction de mon père qu'on voyait bien qu'elle eût approuvé que j'allasse le consoler. Elle ne savait pas combien, sans y songer, elle plaidait contre elle-même. Outre que ma résolution était prise, comme je crois l'avoir dit, plus je la trouvais éloquente, persuasive, plus ses discours m'allaient au cœur, et moins je pouvais me résoudre à me détacher d'elle. Je sentais que retourner à Genève était mettre entre elle et moi une barrière presque insurmontable, à moins de revenir à la démarche que j'avais faite et à laquelle mieux valait me tenir tout d'un coup. Je m'y tins donc. Madame de Varens, voyant ses efforts inutiles, ne les poussa pas jusqu'à se compromettre. Mais elle me dit avec un regard de commisération « Pauvre petit, tu dois aller où Dieu t'appelle. Mais quand tu seras grand, tu te souviendras de moi. » Je crois qu'elle ne pensait pas elle-même que cette prédiction s'accomplirait si cruellement. La difficulté restait tout entière. Comment subsister si jeune hors de mon pays? À peine à la moitié de mon apprentissage, j'étais bien loin de savoir mon métier. Quand je l'aurais su, je n'en aurais pu vivre en Savoie, pays trop pauvre pour avoir des arts. Le manant, qui dînait pour nous, forcé de faire une pause pour reposer sa mâchoire, ouvrit un avis qu'il disait venir du ciel, et qui, à juger par les suites, venait bien plutôt du côté contraire. C'était que j'allasse à Turin, où, dans un hospice établi pour l'instruction des catéchumènes, j'aurais, dit-il, la vie temporelle et spirituelle, jusqu'à ce qu'entré dans le sein de l'Église, je trouvasse, par la charité des bonnes âmes, une place qui me convint. À l'égard des frais du voyage, continua mon homme, sa grandeur, monseigneur l'évêque, ne manquera pas, si madame lui propose cette sainte œuvre, de vouloir charitablement y pourvoir. Et madame la baronne, qui est si charitable, dit-il en s'inclinant sur son assiette, s'empressera sûrement d'y contribuer aussi. Je trouvais toutes ces charités bien dures. J'avais le cœur serré, je ne disais rien. Et madame de Varens, sans saisir ce projet avec autant d'ardeur qu'il était offert, se contenta de répondre que chacun devait contribuer au bien selon son pouvoir et qu'elle en parlerait à monseigneur. Mais mon diable d'homme, qui craignait qu'elle n'en parlât pas à son gré et qui avait son petit intérêt dans cette affaire, courut prévenir les aumôniers et emboucha si bien les bons prêtres que, quand madame de Varens, qui craignait pour moi ce voyage, en voulut parler à l'évêque, elle trouva que c'était une affaire arrangée, et il lui remit à l'instant l'argent destiné pour mon petit viatique. Elle n'osa insister pour me faire rester. J'approchai d'un âge où une femme du sien ne pouvait décemment vouloir retenir un jeune homme auprès d'elle. Mon voyage étant ainsi réglé par ceux qui prenaient soin de moi, il fallut bien me soumettre, et c'est même ce que je fis sans beaucoup de répugnance. Quoique Turin fût plus loin que Genève, je jugeais qu'étant la capitale, elle avait, avec Annecy, des relations plus étroites qu'une ville étrangère d'État et de religion. Et puis, partant pour obéir à madame de Varens, je me regardais comme vivant toujours sous sa direction. C'était plus que vivre à son voisinage. Enfin, l'idée d'un grand voyage flattait ma manie ambulante, qui déjà commençait à se déclarer. Il me paraissait beau de passer les monts à mon âge et de m'élever au-dessus de mes camarades de toute la hauteur des Alpes. Voir du pays est un appât auquel un Genevois ne résiste guère. Je donnai donc mon consentement. Mon manant devait partir dans 2 jours avec sa femme. Je leur fus confié et recommandé. Ma bourse leur fut remise, renforcée par madame de Varens, qui de plus me donna secrètement un petit pécule auquel elle joignit d'amples instructions. Et nous partîmes le mercredi saint. Le lendemain de mon départ d'Annecy, mon père y arriva, courant à ma piste avec un monsieur Rival, son ami, horloger comme lui, homme d'esprit, bel esprit même, qui faisait des vers mieux que la motte, et parlait presque aussi bien que lui, de plus parfaitement honnête homme, mais dont la littérature déplacée n'aboutit qu'à faire un de ses fils comédiens. Ces messieurs virent Madame de Varens et se contentèrent de pleurer mon sort avec elle, au lieu de me suivre et de m'atteindre, comme ils l'auraient pu facilement, étant à cheval et moi à pied. La même chose était arrivée à mon oncle Bernard. Il était venu à Confignon, et de là, sachant que j'étais à Annecy, il s'en retourna à Genève. Il semblait que mes proches conspirassent avec mon étoile pour me livrer au destin qui m'attendait. Mon frère s'était perdu par une semblable négligence, et si bien perdu qu'on n'a jamais su ce qu'il était devenu. Mon père n'était pas seulement un homme d'honneur, c'était un homme d'une probité sûre, et il avait une de ces âmes fortes qui font les grandes vertus. De plus, il était bon père, surtout pour moi. Il m'aimait très tendrement. Mais il aimait aussi ses plaisirs, et d'autres goûts avaient un peu attiédi l'affection paternelle depuis que je vivais loin de lui. Il s'était remarié à Nyon, et quoique sa femme ne fût pas en âge de me donner des frères, elle avait des parents. Cela faisait une autre famille, d'autres objets, un nouveau ménage, qui ne rappelait plus si souvent mon souvenir. Mon père vieillissait et n'avait aucun bien pour soutenir sa vieillesse. Nous avions, mon frère et moi, quelques biens de ma mère dont le revenu devait appartenir à mon père durant notre éloignement. Cette idée ne s'offrait pas à lui directement et ne l'empêchait pas de faire son devoir. Mais elle agissait sourdement, sans qu'il s'en aperçût lui-même, et ralentissait quelquefois son zèle, qui l'eût poussé plus loin sans cela. Voilà, je crois, pourquoi, venu d'abord à Annecy sur mes traces, il ne me suivit pas jusqu'à Chambéry, où il était moralement sûr de m'atteindre. Voilà pourquoi encore, l'étant allé voir souvent depuis ma fuite, je reçus toujours de lui des caresses de père, mais sans grands efforts pour me retenir. Cette conduite d'un père, dont j'ai si bien connu la tendresse et la vertu, m'a fait faire des réflexions sur moi-même, qui n'ont pas peu contribué à me maintenir le cœur sain. J'en ai tiré cette grande maxime de morale, la seule peut-être d'usage dans la pratique, d'éviter les situations qui mettent nos devoirs en opposition avec nos intérêts, et qui nous montrent notre bien dans le mal d'autrui, sûr que, dans de telles situations, quelque sincère amour de la vertu qu'on y porte. On faiblit tôt ou tard sans s'en apercevoir, et l'on devient injuste et méchant dans le fait, sans avoir cessé d'être juste et bon dans l'âme. Cette maxime, fortement imprimée au fond de mon cœur, et mise en pratique, quoique un peu tard, dans toute ma conduite, est une de celles qui m'ont donné l'air le plus bizarre et le plus fou dans le public, et surtout parmi mes connaissances. On m'a imputé de vouloir être original et faire autrement que les autres. En vérité, je ne songeais guère à faire ni comme les autres, ni autrement qu'eux. Je désirais sincèrement de faire ce qui était bien. Je me dérobais de toute ma force à des situations qui me donnassent un intérêt contraire à l'intérêt d'un autre homme. Et par conséquent, un désir secret, quoique involontaire, du mal de cet homme-là. Il y a 2 ans que Milord Maréchal me voulut mettre dans son testament. Je m'y opposais de toute ma force. Je lui marquai que je ne voudrais pour rien au monde me savoir dans le testament de qui que ce fût, et beaucoup moins dans le sien. Il se rendit. Maintenant, il veut me faire une pension viagère, et je ne m'y oppose pas. On dira que je trouve mon compte à ce changement. Cela peut être. Mais, ô mon bienfaiteur et mon père, si j'ai le malheur de vous survivre, je sais qu'en vous perdant, j'ai tout à perdre et que je n'ai rien à gagner. C'est là, selon moi, la bonne philosophie, la seule vraiment assortie au cœur humain. Je me pénètre chaque jour davantage de sa profonde solidité. Et je l'ai retourné de différentes manières dans tous mes derniers écrits. Mais le public, qui est frivole, ne l'y a pas su remarquer. Si je survis assez à cette entreprise consommée pour en reprendre une autre, je me propose de donner dans la suite de l'Émile un exemple si charmant et si frappant de cette même maxime que mon lecteur soit forcé d'y faire attention. Mais c'est assez de réflexion pour un voyageur. Il est temps de reprendre ma route. Je la fis plus agréablement que je n'aurais dû m'y attendre, et mon manant ne fut pas si bourru qu'il en avait l'air. C'était un homme entre deux âges, portant en queue ses cheveux noirs grisonnants, l'air grenadier, la voix forte, assez gai, marchant bien, mangeant mieux, et qui faisait toutes sortes de métiers, faute d'en savoir aucun. Il avait proposé, je crois, d'établir à Annecy je ne sais quelle manufacture. Madame de Varins n'avait pas manqué de donner dans le projet, et c'était pour tâcher de le faire agréer au ministre qu'il faisait, bien défrayé, le voyage de Turin. Notre homme avait le talent d'intriguer en se fourrant toujours avec les prêtres, et, faisant l'empresser pour les servir, il avait pris à leur école un certain jargon dévot dont il usait sans cesse, se piquant d'être un grand prédicateur. Il savait même un passage latin de la Bible, et c'était comme s'il en avait su 1000, parce qu'il le répétait 1000 fois le jour. Du reste, manquant rarement d'argent, quand il en savait dans la bourse des autres, plus adroit pourtant que fripon, et qui, débitant d'un ton de racoleur ses capucinades, ressemblait à l'ermite Pierre, prêchant la croisade, le sabre au côté. Pour Madame Sabran, son épouse, c'était une assez bonne femme, plus tranquille le jour que la nuit. Comme je couchais toujours dans leur chambre, ces bruyantes insomnies m'éveillaient souvent, et m'auraient éveillé bien davantage si j'en avais compris le sujet. Mais je ne m'en doutais pas même, et j'étais sur ce chapitre d'une bêtise qui a laissé à la seule nature tout le soin de mon instruction. Je m'acheminais gaiement avec mon dévot guide et sa sémillante compagne. Nul accident ne troubla mon voyage. J'étais dans la plus heureuse situation de corps et d'esprit où j'ai été de mes jours. Jeune, vigoureux, plein de santé, de sécurité, de confiance en moi et aux autres, j'étais dans ce court mais précieux moment de la vie où sa plénitude expansive étend, pour ainsi dire, notre être par toutes nos sensations et embellit à nos yeux la nature entière du charme de notre existence. Ma douce inquiétude avait un objet qui la rendait moins errante et fixait mon imagination. Je me regardais comme l'ouvrage, l'élève, l'ami, presque l'amant de Madame de Varins. Les choses obligeantes qu'elle m'avait dites, les petites caresses qu'elle m'avait faites, l'intérêt si tendre qu'elle avait paru prendre à moi, ses regards charmants, qui me semblaient pleins d'amour parce qu'ils m'en inspiraient, tout cela nourrissait mes idées durant la marche et me faisait rêver délicieusement. Nulle crainte, nul doute sur mon sort ne troublait ces rêveries. M'envoyer à Turin, c'était, selon moi, s'engager à m'y faire vivre, à m'y placer convenablement. Je n'avais plus de soucis sur moi-même. D'autres s'étaient chargés de ce soin. Ainsi, je marchais légèrement, allégé de ce poids. Les jeunes désirs, l'espoir enchanteur, les brillants projets remplissaient mon âme. Tous les objets que je voyais me semblaient les garants de ma prochaine félicité. Dans les maisons, j'imaginais des festins rustiques. Dans les prés, de folâtres jeux. Le long des eaux, les bains, les promenades, la pêche. Sur les arbres, des fruits délicieux. Sous leur ombre, de voluptueux tête-à-tête. Sur les montagnes, des cuves de lait et de crème. Une oisiveté charmante. La paix, la simplicité, le plaisir d'aller sans savoir où. Enfin, rien ne frappait mes yeux sans porter à mon cœur quelque attrait de jouissance. La grandeur, la variété, la beauté réelle du spectacle rendaient cet attrait digne de la raison. La vanité même y mêlait sa pointe. Si jeune, aller en Italie, avoir déjà vu tant de pays, suivre Hannibal à travers les monts me paraissait une gloire au-dessus de mon âge. Joignez à tout cela des stations fréquentes et bonnes, un grand appétit et de quoi le contenter, car en vérité ce n'était pas la peine de m'en faire faute, et sur le dîner de Monsieur Sabran, le mien ne paraissait pas. Je ne me souviens pas d'avoir eu, dans tout le cours de ma vie, d'intervalle plus parfaitement exempt de soucis et de peines que celui des 7 ou 8 jours que nous mîmes à ce voyage. Car le pas de Madame Sabran, sur lequel il fallait régler le nôtre, n'en fit qu'une longue promenade. Ce souvenir m'a laissé le goût le plus vif pour tout ce qui s'y rapporte, surtout pour les montagnes et les voyages pédestres. Je n'ai voyagé à pied que dans mes beaux jours, et toujours avec délices. Bientôt, les devoirs, les affaires, un bagage à porter, m'ont forcé de faire le monsieur et de prendre des voitures. Les soucis rongeants, les embarras, la gêne y sont montés avec moi. Et dès lors, au lieu qu'auparavant, dans mes voyages, je ne sentais que le plaisir d'aller, je n'ai plus senti que le besoin d'arriver. J'ai cherché longtemps à Paris 2 camarades du même goût que moi qui voulussent consacrer chacun 50 louis de sa bourse et 1 an de son temps à faire ensemble, à pied, le tour de l'Italie, sans autre équipage qu'un garçon qui porta avec nous un sac de nuit. Beaucoup de gens se sont présentés, enchantés de ce projet en apparence, mais au fond, le prenant tous pour un pur château en Espagne, dont on cause en conversation, sans vouloir l'exécuter en effet. Je me souviens que, parlant avec passion de ce projet avec Diderot et Grimm, je leur en donnais enfin la fantaisie. Je crus une fois l'affaire faite. Le tout se réduisit à vouloir faire un voyage par écrit, dans lequel Grimm ne trouvait rien de si plaisant que de faire à Diderot beaucoup d'impiété et de me faire fourrer à l'Inquisition à sa place. Mon regret d'arriver si vite à Turin fut tempéré par le plaisir de voir une grande ville et par l'espoir d'y faire bientôt une figure digne de moi. Car déjà, les fumées de l'ambition me montaient à la tête. Déjà, je me regardais comme infiniment au-dessus de mon ancien état d'apprenti. J'étais bien loin de prévoir que dans peu, j'allais être fort au-dessous.